Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous. On se retrouve pour revivre 7 jours d'événements avec bien sûr les reportages de la rédaction. Nous partirons aujourd'hui pour les États-Unis, la Turquie, l'Afghanistan ou bien encore la République démocratique du Congo. Une semaine d'actualité à écouter également sur l'application Pure Radio RFI et sur notre site www.rfi.fr. Cette semaine, notre invité est un observateur rigoureux de notre monde contemporain, Nicolas Bavraise, qui dans son dernier essai nous invite à défendre la liberté dans un monde de violence et de passion. Bonjour Nicolas Bavraise.
Bonjour.
Je suis heureux de vous avoir à ce micro. Vous êtes éditorialiste, essayiste, auteur d'ouvrages sur le déclin de la France qui ont eu un grand écho il y a quelques années. Et le monde vous intéresse aussi et votre dernier livre s'intéresse à l'état du monde. Et il y a en exergue une phrase de Churchill qui disait « Ceux qui prétendent que rien n'a jamais été réglé par la guerre disent des âneries. En fait, rien dans l'histoire n'a jamais été réglé autrement que par la guerre. » Votre livre commence avec cette phrase « La violence et la barbarie ne sont pas à nos portes, elles sont chez nous. »
Oui, je crois que quand on regarde ce début de 21e siècle, c'est vrai que la première décennie a été entièrement occupée par l'une des plus grandes crises du capitalisme, la plus grande depuis 29,
et donc
en 2008. Mmh. Et donc, on s'est beaucoup intéressé à l'économie et on a eu raison. Tout est loin d'être parfait, mais 10 ans après, la croissance mondiale est à peu près repartie. On a évité une nouvelle grande dépression mondiale. Mais on a finalement accordé peu d'importance aux séquelles politiques de ce choc et surtout à ce qui se passait parallèlement au plan géopolitique. Et je crois que la décennie 2010, celle dans laquelle nous sommes, c'est une décennie de crack politique et de crack géopolitique. Le crack politique, c'est la pression du populisme dans les démocraties. Ce choc qui, en 2016, a frappé le Royaume-Uni avec le Brexit et ensuite les États-Unis après l'élection de Donald Trump, qui s'est prolongé en Europe, en Allemagne, en Autriche, d'une certaine manière aussi avec le sécessionnisme catalan, qui va peut-être toucher l'Italie avec les élections de mars prochain. Et puis, il y a eu un crack géopolitique, c'est-à-dire que les idéologies du XXe siècle sont mortes, mais on n'a pas du tout eu à la place l'avènement de la démocratie de marché, comme le prétendait Francis Fukuyama. Ce que nous avons, c'est le réveil de ce que Tocqueville disait à juste titre être les deux passions politiques les plus fondamentales et les plus puissantes, le nationalisme et la religion.
Ouais. Donc c'est pas du tout la fin de l'histoire.
C'est pas du tout la fin de l'histoire, c'est exactement l'accélération de l'histoire. Ouais. D'ailleurs, il faut toujours se méfier de la mode intellectuelle des fins. On nous avait annoncé la fin du travail quand 3 milliards d'hommes sont entrés dans le capitalisme, la fin des frontières quand non seulement elles existent, mais que beaucoup de murs surgissent au-dessus de ces frontières pour les garantir. Et donc la fin de l'histoire était là aussi une chimère intellectuelle.
Alors, dans ce contexte pour le moins difficile, Nicolas Bavraise, les démocraties en particulier doivent faire attention. Sont-elles qui sont menacées?
Voilà, elles font face au djihadisme, donc le retour du fanatisme religieux, à l'émergence de régimes alternatifs qui les contestent et qui les désignent comme un adversaire, les démocratures, la Chine qui retourne le capitalisme et les technologies contre l'Occident, la Russie de Vladimir Poutine qui pousse vers l'Europe et qui par ailleurs intervient directement dans un certain nombre de votes, ça a été le cas aux États-Unis, un peu en France, sans succès, mais aussi lors des référendums sur le Brexit ou l'indépendance de la Catalogne. La Turquie d'Erdogan, qui est une démocrature islamique, donc qui mêle le côté impérial, le retour à l'Empire ottoman, et puis évidemment le retour à l'islam. Donc, on a d'un côté ces périls, on a par ailleurs les cadres qui avaient été dressés, qui étaient un peu cet ordre mondial, avec le multilatéralisme, qui n'était pas parfait, qui avait des défauts.
Symbolisé par par l'ONU, notamment, par
exemple. L'ONU, mais aussi les accords de désarmement, les traités de libre-échange, les grandes alliances, l'accord de Paris sur le climat, et on voit que tout ça est attaqué par les États-Unis, qui les avaient largement portés.
Alors justement, Nicolas Bavraise, partons de suite pour les États-Unis avec mardi le discours version 2018 de l'État de l'Union, et un président Trump qui a étonné par sa sobriété. Washington, Anne Corpé.
Beaucoup d'applaudissements pour ponctuer une intervention très présidentielle avec des mots choisis, un langage policé auquel Donald Trump n'a pas habitué les Américains. Le président a défendu son bilan, notamment sur le plan économique, avec des succès qu'il a qualifiés d'extraordinaires. Il s'est voulu rassembleur et résolument optimiste. Donald Trump.
This in fact is our new...
En réalité, il s'agit d'un nouveau moment pour l'Amérique. Il n'y a jamais eu de meilleure période pour commencer à vivre le rêve américain. Donc à tous les citoyens qui m'écoutent chez eux ce soir, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, d'où vous venez, c'est votre moment. Si vous travaillez dur, si vous croyez en vous-même, si vous croyez en l'Amérique, alors vous pouvez rêver à tout ce que vous voulez. Vous pouvez tout réaliser. Et ensemble, nous pouvons absolument tout réussir.
Présentant ses projets pour l'année à venir, Donald Trump a longuement évoqué l'immigration. Il a proposé un chemin vers la citoyenneté pour 1 800 000 jeunes clandestins arrivés pendant leur enfance aux États-Unis, mais en échange d'un renforcement de la sécurité à la frontière et d'un net ralentissement de l'immigration légale. Une question qui a occupé près d'un quart de son long discours, 1h23, presque un record. Seul Bill Clinton a fait plus long pour un discours de l'État de l'Union.
Nicolas Bavraise, semble-t-il, il y avait là un discours présidentiel, un vrai.
Oui, Donald Trump s'est présenté en père de la nation. Il avait déjà choisi ce style plus apaisé à Davos, où il s'était adressé au reste du monde, aux investisseurs, aux chefs d'État étrangers, sur le thème « America is back », et c'est un peu aussi le thème de ce discours. Ce qu'on peut voir, c'est que, en fait, Donald Trump ne fait toujours que de la politique intérieure, et la politique intérieure pour lui, c'est d'abord l'économie. Or, finalement, quand on regarde les chiffres de l'économie américaine aujourd'hui, pour l'instant, il ne fait pas mieux que Barack Obama. C'est pour ça que la réforme fiscale est très importante, parce qu'elle doit permettre d'avoir un supplément de croissance. Le FMI estime que la croissance américaine pourrait atteindre 2,7% cette année, donc c'est pas les 4% qu'annonce Donald Trump, mais c'est de fait au-dessus des 2,1% qui sont la moyenne des dernières années. Il n'empêche que ces deux discours plus apaisés ne font pas oublier les débordements précédents, notamment sur l'immigration sur un certain nombre de pays, et surtout la réactivation de ce qui est le plus dangereux aux États-Unis. On le sait là encore depuis Tocqueville, c'est-à-dire la désunion de la nation et la réactivation des clivages, notamment raciaux, ce qui est malheureusement le passif de cette première année de mandat.
Et vous allez loin, Nicolas Bavraise, parce que vous écrivez que l'embardé populiste du monde anglo-saxon mine la puissance, l'unité et les valeurs de l'Occident, tout en ouvrant de nouveaux espaces à la violence et en renforçant les forces du chaos. Donc vous mettez là en exergue les États-Unis et la Grande-Bretagne.
Oui, enfin, mais surtout les États-Unis, puisque c'était quand même les États-Unis, d'abord qui ont largement façonné l'ordre mondial après la Seconde Guerre mondiale, après 1945, et surtout qui étaient les grands réassureurs à la fois du capitalisme mondial et puis de l'ordre géopolitique. Donc la réassurance du capitalisme, elle a volé en éclats en 2008. Les États-Unis portent une responsabilité majeure dans le krach, et ils n'ont pu le réassurer seul. La Chine, l'Europe ont aussi aidé. Et aujourd'hui, c'est vrai que la déstabilisation des traités d'alliance, des traités de commerce, tout ça ouvre un formidable espace, notamment aux démocratures. Ce qui est frappant quand on regarde Davos 2017, Donald Trump, et Davos 2016, Xi Jinping, c'est qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui a une stratégie globale, une stratégie monopole du Parti communiste à l'intérieur. Le fait d'orienter en priorité les dividendes de la croissance chinoise vers les entreprises et les ménages chinois, la prise de contrôle de la mer de Chine et la projection de la puissance chinoise via les nouvelles routes de la soie, 900 milliards de dollars mobilisés sur 70 pays pour prendre le contrôle des infrastructures de la mondialisation, des infrastructures critiques. Donc c'est une vraie stratégie. Et du côté des États-Unis, il reste évidemment des éléments de puissance formidables. C'est le premier budget militaire du monde, 700 milliards de dépenses, mais on voit très bien que ça ne suffit pas, puisque en face de ce budget, on a par ailleurs beaucoup de déconfitures militaires.
7 jours dans le monde.
Et direction 3 points chauds du globe, Nicolas Bavrez. D'abord le Yémen, où les forces séparatistes ont progressé ces derniers jours et où les combats se sont intensifiés à Aden, notamment Anastasia Becchio.
Les parties en conflit ont désormais recours aux chars et à l'artillerie lourde. Les combats se concentrent autour de bases gouvernementales dans le nord d'Aden. Les violences opposent d'anciens alliés, les séparatistes du sud Yémen et les troupes fidèles au président Abed Rabo Mansour Hadi. Son gouvernement, reconnu par la communauté internationale, est réfugié à Aden depuis qu'il a été chassé de la capitale Sanaa par la rébellion chiite des Houthis. La situation entre les anciens alliés s'est tendue au printemps dernier lorsque le président Ali le gouverneur d'Aden qui a formé dans la foulée un conseil de transition du Sud, une autorité parallèle dominée par les séparatistes. Ce conseil exige le départ du Premier ministre et des changements au sein du gouvernement qu'il accuse de corruption et de mauvaise gestion. Son ultimatum ayant expiré en fin de semaine, les combats ont immédiatement éclaté. Les forces séparatistes font venir des renforts depuis des provinces du Sud et du centre du pays. Le gouvernement yéménite a prévenu la coalition sous commandement saoudien que si elle n'intervenait pas, les troupes combattant les rebelles chiites plus au nord abandonneraient leur position pour rentrer à Aden.
Alors partons maintenant pour la Turquie, Nicolas Bavrez. Alors que l'armée turque continue son offensive contre les Kurdes dans le nord de la Syrie, avec de violents affrontements mercredi et notamment, l'ordre doit régner dans le pays. Istanbul mardi, Alexandre Billette.
Il y a une semaine, Recep Tayyip Erdogan avait prévenu que ceux qui voulaient critiquer l'offensive en Syrie allaient en payer le prix. La menace a été mise à exécution immédiatement. Les rares manifestations ont été interdites et même certains de ceux qui l'ont critiqué sur les réseaux sociaux ont été arrêtés. Selon le ministère de l'Intérieur, 311 personnes ont été placées en garde à vue pour propagande terroriste, parmi lesquelles de nombreux militants ou députés du parti de la gauche pro-kurde, HDP, le seul parti en Turquie opposé à l'intervention militaire. Il y aurait plus de 200 membres du parti parmi les personnes arrêtées. Mais ce ne sont pas que les militants kurdes qui sont visés. Des dizaines d'intellectuels qui ont signé une pétition pour la paix ont par exemple été qualifiés de traîtres par le président turc. Et dernière cible en date des censeurs, l'Union des médecins de Turquie qui a publié une lettre en faveur de la paix. 11 de ses membres sont aujourd'hui sous le coup d'une enquête pour soutien au terrorisme.
Soulignons aussi le fiasco du sommet de Sotchi sur la Syrie. Pas d'avancée significative, c'est le moins que l'on puisse dire. Cette rencontre en Russie était boycottée par l'opposition syrienne, les Kurdes et les Occidentaux. L'Afghanistan, enfin, Nicolas Bavrez, à 3 reprises en 10 jours, les deux groupes insurgés, talibans d'un côté et djihadistes de l'organisation de l'État islamique de l'autre, ont déjoué les défenses de la capitale et tué et blessé des centaines de civils, y compris des étrangers. Leur capacité à tromper la vigilance des services de sécurité a mis en lumière de graves failles au sein même de ces services et peut-être aussi de complicité. Après l'attaque de lundi contre l'académie militaire qui a fait 11 morts, œuvre de l'État islamique, le président Ashraf Ghani a juré sur Twitter que réformer les services de renseignement et le ministère de l'Intérieur est désormais notre priorité numéro 1. Fin de citation. Quant à la population, elle vit dans la peur. Kaboul, Sonia Ghezali.
Le gouvernement est incapable de nous protéger. Ce sont les mots de certains rescapés de l'attaque à l'ambulance piégée samedi qui a causé la mort de plus de 100 personnes, des civils pour la plupart. Dans la capitale, la population est partagée entre la colère et le désespoir, colère qui s'exprime surtout sur les réseaux sociaux. Rester en vie est un pur hasard ici. Pensez à toujours avoir sur vous un morceau de papier avec vos noms et prénoms et le numéro de téléphone d'un proche, écrivait un internaute afghan hier sur Facebook. Nombreux sont les Afghans qui affirment sortir de chez eux le matin sans savoir s'ils vont rentrer vivants. « Je vais essayer de partir du pays de façon illégale, mais je ne veux pas rester ici », explique un ancien interprète de l'armée française dont la demande de visa a été rejetée par la France et qui a déjà été blessé 2 fois en l'espace d'une année dans des attaques ciblées. Les forces de sécurité payent aussi un lourd tribut. Hier, l'attaque était dirigée contre des militaires. Les menaces viennent aussi bien des talibans que de l'organisation État islamique. Une véritable tension règne dans la capitale. Le niveau d'alerte reste élevé avec des policiers plus nombreux au barrage de police. Les ambassades étrangères conseillent à leurs ressortissants d'éviter de sortir de chez eux.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de notre invité Nicolas Bavrez, qui a écrit « Violence et passion, défendre la liberté à l'âge de l'histoire universelle », un livre publié aux éditions de l'Observatoire. Là, nous y sommes, Nicolas Bavrez, dans ce monde imprévisible et dangereux.
Oui, cette succession d'enquêtes ou de reportages illustre très bien, je pense, ce nouveau monde. Donc, on a vu le Yémen, la Syrie, l'Afghanistan. La caractéristique, d'abord, c'est qu'on se trouve avec un immense arc de crise qui court finalement du Nigeria jusqu'aux Philippines. Et sur cet axe de crise, on mêle ce qu'on voit en Syrie ou au Yémen. On a à la fois des guerres tribales, une guerre de religion, notamment entre les sunnites et les chiites, des interventions de puissances régionales, l'opposition très forte entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et évidemment également la Turquie, et là-dessus, l'intervention de grandes puissances, les États-Unis d'un côté, la Russie et la Chine faisant son marché au moins pour les sources d'énergie et notamment le pétrole. Et l'autre évolution qui est spectaculaire et inquiétante, c'est que derrière ces conflits, on a ce que j'appelle les guerres sans fin. L'Afghanistan est en guerre permanente depuis 1979. La Syrie, on voit qu'il n'y a pas de possibilité, puisque finalement, tout le monde a intérêt à ce que la guerre se poursuive. Et par ailleurs, toutes les parties sont dans des attitudes jusqu'au boutiste, puisque la défaite signifie l'extermination physique, ce qu'on a vu avec les Yézidis. Quand un des camps, par exemple, ce qui a été le cas du régime de Bachar el-Assad en 2015, quand un des camps commence à être vraiment sur la défensive, il peut, ou sur le recul, il peut faire appel à un allié extérieur. Ce sont les Russes qui ont rétabli la balance. Donc, ce sont ces guerres sans fin qui sont à la fois intérieures et extérieures, ethniques, religieuses, politiques. Et cette violence à l'état gazeux et évidemment qui exporte. Aujourd'hui, on voit que l'ensemble du Moyen-Orient est dans une situation de très grande fragilité et de chaos.
Alors, face à cette situation, pour ne parler que de cette région du monde, il y a l'Europe qui est au cœur de votre livre, Nicolas Bavrez. Vous vous dites, face à tous ces dangers, il faut vraiment, vraiment que l'Europe, on parlera de la France aussi tout à l'heure singulièrement, se ressaisisse.
Oui, parce que l'Europe est un continent vieux, riche, désarmé, face à des peuples qui sont jeunes, pauvres et surarmés. Et quand on regarde cette fameuse zone de crise, quand on regarde les frontières de notre continent, si l'on démarre de la Baltique et qu'on fait tout le tour en passant par le Moyen-Orient, le Maghreb, le Machrek, et pour finir au Maroc, il n'y a aucune région qui soit apaisée, pacifique et stable. Donc, penser que l'Europe pourra rester à l'abri de tous ces chocs et de ces crises, c'est évidemment une énorme illusion. Donc, l'Europe doit prendre conscience de ce caractère dangereux, et d'autant plus qu'elle a perdu son grand allié qui était les États-Unis, qui ne réassure plus aujourd'hui sa sécurité.
L'Europe, combien de divisions ? La question de la défense se pose.
Voilà. L'Europe, les choses sont très claires. Aujourd'hui, les États-Unis consacrent 700 milliards de dollars pour protéger 320 millions d'Américains. L'Europe consacre 220 milliards de dollars pour protéger 550 millions d'Européens. Et par ailleurs, elle est en contact direct de beaucoup de zones de crise, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Donc, il est certain que l'Europe doit absolument réfléchir à une stratégie globale pour répondre à ces risques et qu'elle doit clairement réarmer.
Mais le problème, c'est qu'elle est divisée.
Et le problème, c'est qu'elle est divisée, comme vous le soulignez. Donc, le Brexit la prive du tiers de son potentiel militaire. Et puis, on a d'énormes tensions pour les 27 qui restent entre le Nord et le Sud autour de la gestion de la politique économique, et la remontée de l'euro et des taux d'intérêt vont tendre à nouveau les relations entre le Nord et le Sud, notamment de la zone euro. Et puis, évidemment, des tensions entre l'Est et l'Ouest autour des migrants, mais aussi autour de ce concept de démocratie démocratie libérale que Viktor Orban a créée et qui maintenant, j'allais dire, fait l'unanimité au sein des pays du groupe de Visegrad, qui étaient des pays symboliques qui ont rejoint le camp de, européen, le camp de la liberté, et qui aujourd'hui sont tentés de le quitter.
Nicolas Bavrez, nous allons faire une pause, écouter quelques nouvelles du monde. Il sera sans doute question de la Syrie, de l'Europe et des pays dont on vient de parler. On se retrouve dans 3 minutes. A tout de suite. Merci pour toutes ces informations. Nous continuons, nous, à dérouler les faits saillants de la semaine avec les reportages de la rédaction, évidemment, et notre invité, Nicolas Bavrez, qui vient de publier un nouvel essai qui s'intitule « Violence et passion, défendre la liberté à l'âge de l'histoire universelle », un livre publié aux éditions de l'Observatoire.
Une semaine d'actualité.
Dans un instant, nous partirons pour l'Afrique, mais pour le moment, arrêtons-nous un instant en France, avec d'abord un chiffre record. 303 filières d'immigration clandestine ont été démantelées en France l'année dernière, en 2017, donc Pierre-Olivier.
Il y a d'abord le centre de l'Afrique, en République démocratique du Congo notamment. C'est dans ce pays que plus de 20 filières démantelées par la police française se fournissaient en êtres humains. Toujours sur le continent africain, mais plus à l'ouest cette fois, ce sont pas moins de 53 filières qui s'enracinaient du Sénégal au Cameroun en passant par la Guinée-Bissau. Difficile de savoir combien d'hommes ont transité par ces réseaux extrêmement mobiles et se réorganisant sans cesse pour brouiller les pistes, des milliers, peut-être même des centaines de milliers. C'est le cas également au Moyen-Orient. Plus de 20 filières d'immigration reliant l'Irak à la France ont été démantelées, 11 entre l'Iran et l'Hexagone. Certaines filières sont même qualifiées de haut de gamme par les enquêteurs, avec un relooking inclus pour apprendre à se faire passer pour un Européen et des nuits en hôtel en attendant les faux papiers, moyennant 40 000 euros. Enfin, l'Asie représente elle aussi l'un des principaux bassins d'approvisionnement de ces filières clandestines, 19 démantelées entre la France et la Chine, des candidats présentés aux autorités françaises comme de jeunes ingénieurs en marketing pour de fausses sociétés qui se retrouvaient bien souvent plongeurs dans des restaurants asiatiques.
Un couac au sein des services de police, apparemment, selon le Canard Enchaîné, 3 services de renseignement avaient repéré l'un des tueurs du père Hamel en 2016, mais leurs informations n'ont pas été prises en compte. Simon Rosé.
Après la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, voici la direction du renseignement militaire et le service central du renseignement territorial. Selon Mediapart et le Canard Enchaîné, ces 3 entités avaient toutes repéré Adel Kermiche, l'un des 2 tueurs du père Hamel. Parfois 5 jours avant les faits, elles avaient découvert ses propos sur le réseau Telegram où il laissait entendre qu'il voulait passer à l'acte dans un lieu de culte. Bien sûr, des notes ont alors été émises par les agents des différents services. Elles ont toutes été envoyées à ce qu'on appelle l'ALAT, une cellule de coordination réunissant les représentants des services civils et militaires de renseignement. Mais cela n'a rien donné, il y aura au total 5 signalements envoyés à cette cellule. Tous se sont perdus dans la tuyauterie de l'antiterrorisme, comme l'écrit le Canard Enchaîné. Des ratés en série qui font mauvais genre. Une enquête judiciaire est d'ailleurs en cours pour déterminer comment cela a pu se produire. Les fonctionnaires de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris ont d'ailleurs d'ores et déjà été entendus par les enquêteurs.
Nicolas Bavrez, parlons maintenant des manifestations massives du personnel des EHPAD, les établissements pour l'accueil des personnes âgées dépendantes. Manque de moyens, sous-effectifs et maltraitance aussi sont au cœur du malaise. Reportage mardi à Paris d'Aram Bengue.
Les soignants sont en colère, les résidents sont en colère. Aujourd'hui, notre État nous offre de mauvaises conditions de travail.
C'est pour dénoncer leurs conditions de travail que les personnels des maisons de retraite sont sortis dans la rue. Ils sont plusieurs centaines à exprimer leur ras-le-bol. Fatou Ndiaye, aide-soignante, parle des difficultés dans son travail.
Plus de boulot, moins de personnel, des gens dont la prise en charge est de plus en plus lourde. Les gens viennent très âgés, très malades maintenant en maison de retraite. Et donc voilà, moins de personnel, plus de travail.
Et ce ne sont pas seulement les soignants qui sont en sous-effectif. Cette jeune femme est animatrice dans une maison de retraite. Parfois, elle doit s'occuper toute seule d'une centaine de résidents.
Il faut que je m'occupe de l'ensemble des résidents. Et quelquefois, si ma collègue est malade, elle n'est pas remplacée. Donc je dois faire tout le travail toute seule.
Parmi les manifestants, des retraités qui tiennent à montrer leur solidarité avec les salariés des EHPAD en grève.
Parce que moi, je suis retraité, donc dans quelques années, année, c'est moi qui serai dans les EHPAD à être maltraité si rien n'évolue aujourd'hui.
En France, près de 600 000 personnes vivent dans l'une des 7200 maisons de retraite que compte le pays.
Sept jours en France.
Et l'actualité française, c'est aussi la révocation par le CSA, le régulateur de l'audiovisuel, de Mathieu Gallet, le président de Radio France, après sa condamnation pour favoritisme lorsqu'il dirigeait l'Institut National de l'Audiovisuel, le LINA, qui avait poussé le gouvernement à réclamer son départ suite d'une semaine d'actualité. Et cette actualité en France, Nicolas Bavrez, est aussi marquée par les rixes qui ont éclaté jeudi à Calais. Entre des centaines de migrants, 5 migrants ont été touchés par balle, dont 4 grièvement. Et l'un d'eux a reçu une balle dans la nuque, selon la police. Un durcissement réel.
Incontestable. En fait, je crois que toutes ces questions ont un point commun, c'est que ça se ramène au problème de la réforme de l'État et à sa modernisation. D'un côté, on a un État régalien auquel on consacre aujourd'hui un peu moins de 3% du PIB. Donc il y a clairement des problèmes de moyens financiers et on voit que la défense, la police, la justice souffrent de difficultés, de pénurie d'effectifs, mais aussi d'insuffisance d'investissement bien souvent. Et derrière, on a aussi un problème de stratégie. Quand on regarde, par exemple, la question des migrants ou la question de la lutte contre le terrorisme, d'abord, elles ont un point commun, c'est que quand on trafique des êtres humains, on trafique aussi de la drogue, des armes.
303 filières démantelées en 2017.
Et on sait qu'il y a des points communs aujourd'hui entre la grande délinquance et le terrorisme. Mais il est clair qu'il faut des stratégies globales, donc il n'y a pas de stratégie uniquement policière ou militaire, il faut aussi du diplomatique, il faut aussi de l'action économique. Et du côté des EHPAD, je crois que c'est la même chose que pour le chômage, c'est-à-dire qu'on a un État-providence qui mobilise 34% du PIB aujourd'hui, mais qui peine de plus en plus à affronter les nouveaux risques sociaux. Et la question des EHPAD, ça a été rappelé, une des questions les plus compliquées, c'est la question de la dépendance. Parce que c'est vrai que ce qui est très heureux, c'est que on vit plus longtemps et plus longtemps en bonne santé.
Et la population française va continuer de vieillir.
Va continuer de vieillir, mais que on a aujourd'hui à cause de l'allongement de l'espérance de vie, des dernières années qui sont souvent marquées par des maladies dégénératives et des situations de dépendance. Et c'est vrai que la dépendance aujourd'hui est mal prise en compte par notre système de santé, de même qu'il prend mal en compte l'exclusion, qui est le cumul d'un certain nombre de problèmes sociaux sur les mêmes personnes et qui suppose pour les aider, non pas seulement de leur apporter des revenus de complément, mais d'avoir des parcours de réinsertion que l'État-providence à la française, tel qu'il est organisé aujourd'hui, peine à mettre en place, alors que, par exemple, quand on regarde la Scandinavie, souvent en Europe du Nord, on a des systèmes qui sont à la fois plus efficaces économiquement et également plus efficaces socialement pour réintégrer un certain nombre de populations qui sont en situation d'exclusion.
Mais ceci dit, Nicolas Bavrez, une des informations de la semaine, c'est quand même la décision qu'aurait pris le gouvernement de se séparer de 120 000 fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron avec des départs volontaires. Ça, c'est nouveau.
Oui, mais je crois qu'on inverse l'ordre des facteurs, c'est-à-dire la question des moyens, que ce soit les moyens financiers, les équipements ou les effectifs, c'est une question qui est seconde. La vraie question, c'est qu'est-ce que l'État veut faire aujourd'hui comme mission ? Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on rend éventuellement au secteur privé, si on considère qu'il peut être plus efficace à moindre coût ? Et ensuite, quels moyens on met en face des missions qu'on souhaite conserver ? Quand on regarde les pays qui ont réussi à baisser fortement la dépense publique ou la dette publique, que ce soit le Canada ou que ce soit les pays scandinaves, tous ont procédé de cette manière-là. Donc, qu'est-ce que l'État, aujourd'hui, dans le système du 21e siècle, doit faire ? Et c'est vrai que il a des compétences qui sont unique et rare, notamment pour gérer un certain nombre de grands risques qui ne peuvent pas relever du secteur privé. Et qu'est-ce qui doit être fait en partie au plan international ? Si on prend par exemple le climat, on sait très bien que ça n'a aucun sens que de faire de la lutte contre le réchauffement climatique simplement au plan national.
Alors, parmi les missions régaliennes, c'est peut-être la mission d'un État, il y a la défense, c'est au cœur de votre livre, cela. Vous vous appelez, c'est aussi un appel que vous lancez dans ce livre, l'État, le gouvernement, les gouvernements futurs a augmenté le budget de la défense. On a suivi les soubresauts depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron de ses relations avec l'armée. Il y a sans doute des militaires qui nous écoutent en ce moment même en Afrique. Par exemple, Nicolas Barrès, vous vous dites il est vraiment temps de faire un effort en matière de défense.
Voilà. Derrière, comme vous dites, les soubresauts et donc la crise autour de la démission du général de Villiers, je pense que notre système de défense pose aujourd'hui des difficultés considérables. Il y a un point qui est très positif, c'est que la France n'a pas cédé justement à l'illusion de la fin de l'histoire. Après le Brexit, elle va rester le seul pays européen à avoir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, à disposer d'une dissuasion nucléaire autonome, à avoir un modèle aussi complet d'armée, ouais, et à pouvoir entrer sur un théâtre d'opérations complexe, y compris par exemple au Sahel, avec quand même une inquiétude, puisque c'est peut-être aussi une zone qui est en train de tomber dans le modèle des guerres sans fin. Donc c'est un atout, ça nous crée des responsabilités. Et la difficulté, c'est que le système militaire français, il a été surengagé. On considère aujourd'hui qu'on a à peu près 30 000 hommes en opération, c'est 30% au-dessus des contrats opérationnels. Et donc la difficulté, c'est qu'on est en train de consommer tout notre potentiel, qu'on est en train d'accumuler du retard sur un certain nombre d'équipements vitaux, les drones, tout ce qui concerne l'aérien, et que par ailleurs, on va devoir reconstituer, moderniser la dissuasion nucléaire à partir de 2020, puisqu'elle obéit à des cycles, et que pour le seul nucléaire, il faudra passer de 3,9 milliards par an à 6 milliards par an. Et aujourd'hui, les enveloppes financières prévues ne permettent pas de financer ces trois choses, régénération, modernisation et remise à niveau de la dissuasion nucléaire.
Mais curieux pays que la France, Nicolas Barrès, parce que ça, c'était prévisible. Ça fait des années qu'on parle de ça, de cette nécessité de renouveler le matériel, de retrouver une stratégie, de la moderniser.
Oui, mais la défense a servi de variable d'ajustement, puisque la défense a supporté 40% des économies qui ont été faites au cœur de l'État dans les 10 à 15 dernières années. Donc la défense, en fait, est le ministère qui a porté l'essentiel de ces économies. Et je crois que on a sous-estimé le changement du contexte géopolitique. Et que le choix qui a été fait, au-delà de la défense, de sacrifier les fonctions régaliennes aux transferts sociaux et à l'État-providence, est un choix qui aujourd'hui touche à ses limites, parce qu'on a un vrai problème sur la sécurité et parce que par ailleurs, les dysfonctionnements de l'État-providence fait qu'il coûte de plus en plus cher pour des résultats qui sont de moins en moins bons.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez à nous écrire, évidemment, soit à cette adresse, soit sur la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Je salue aujourd'hui Marvel, je salue Chris à Bujumbura, Kelly qui nous écoute à Bujimaï en RDC, République démocratique du Congo. Un petit salut également à Fousseni en Guinée, Sakoro à Bamako, il insiste lui sur la situation au nord du Mali. Bonjour à Jonas à Lubumbashi et à Harry à Toamasina à Madagascar.
Une semaine d'actualité.
Et merci d'être fidèle à RFI. Nous allons commencer notre voyage africain, Nicolas Barrès, au Kenya. Avec mardi, la prestation de serment très symbolique du perdant de la dernière élection présidentielle, Raila Odinga, Nairobi, Sébastien Demette.
Raila Odinga est arrivé au milieu de la foule et pourtant, l'opposant est aussi apparu isolé. Ses trois grands alliés étaient absents. Le chef de la NASA a donc prêté serment en seulement 10 minutes. Malgré tout, Félix Ouma était satisfait.
C'était court, mais on a apprécié car ça faisait longtemps qu'on attendait cela. Maintenant, je suis heureux, on va dans la bonne direction. La seule chose que j'attends, c'est Raila Odinga au palais présidentiel. On pensait que la cérémonie d'aujourd'hui serait difficile à organiser. Pourtant, elle a eu lieu, donc tout est possible.
La conquête du palais semble une idée jusqu'au boutiste, mais d'autres militants plus modérés, comme Jalis Ojoa, espèrent une issue pacifique à la crise.
Les Kenyans aiment la paix. Cette cérémonie va mettre la pression sur le gouvernement pour qu'un dialogue s'ouvre. Un accord sur de nouvelles élections ou des réformes électorales est possible. Si la situation reste bloquée, alors Raila Odinga devrait nommer son gouvernement. Là, on verra les choses bouger.
Mais l'absence de trois grands alliés laisse un goût inachevé à une frange des militants, comme Daniel Nyong'o.
Je suis totalement déçu. Pour moi, cette cérémonie n'a pas de valeur. On n'a eu aucune explication. Le serment a été très court. Tout cela n'a pas de sens. Je n'ai plus confiance en ces trois hommes. Raila Odinga a fait son devoir, mais les trois autres ne doivent pas attendre notre soutien. Je vois ça comme une trahison.
Officiellement, les trois responsables ne sont pas venus pour raisons de sécurité, mais certains voient là des signes de mésentente au sein de la coalition.
Le Togo, maintenant, Nicolas Bavrez, l'opposition maintient la pression. Mercredi, par exemple, le Lomé était en effervescence, car cette opposition et le régime aussi ont mobilisé leurs partisans. Lomé, correspondance de Peter Dogbe.
Sur le terrain de Tocoin Forever, l'ambiance était festive. On a chanté et dansé. Plusieurs jeunes sont venus de partout écouter le message que le chef du parti au pouvoir, l'Union pour la République, leur envoie. Mazamé Soassi, déléguée adjointe du mouvement des jeunes Unir.
C'est un message de paix, d'encouragement, de travail, de persévérance, d'entrepreneuriat, de construction et de motivation envers la jeunesse togolaise. Déjà, aujourd'hui, nous avons à peu près 10 000 jeunes qui répondent à l'appel de ce message que nous voulons leur transmettre aujourd'hui. Donc, nous estimons que les 10 000 qui sont à Lomé, qui sont présents aujourd'hui à cette manifestation, démontrent en fait de la volonté des jeunes de collaborer au projet que le chef de l'État a avec eux.
Ailleurs, à la plage, c'est une ambiance de colère. On écoute religieusement les leaders de la coalition des 14 partis de l'opposition. Le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, explique pourquoi il insiste sur la libération des détenus dans l'affaire des incendies des marchés. Toutes ces réclamations, en somme, ont un seul et même objectif, l'alternance politique. Docteur Nagbandia Kampatib, de la coalition des 14.
Ce que nous voulons aujourd'hui, en réalité, ça se réduit à l'alternance démocratique. C'est-à-dire que tout ce qu'on a mis dans l'enveloppe, tout ce qu'on peut dire, ça se résume à l'alternance démocratique.
Pendant que le front politique tient la rue, le front social gronde, les médecins ont abandonné leurs blouses blanches, les hôpitaux sont en grève, les enseignants ont vidé les salles de classe. Une semaine a coupé le souffle au gouvernement.
Avant de vous retrouver, Nicolas Bavrez, partons pour la République démocratique du Congo, la RDC, un an après la mort de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, dont le corps n'est toujours pas d'ailleurs revenu dans son pays. Une messe à sa mémoire a été célébrée jeudi matin à la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa. Reportage de notre envoyé spécial, Florence Maurice.
Je suis Tshisekedi, je ne mourrai pas avant la victoire. Tous ensemble,
je suis Tshisekedi, je ne mourrai pas avant la victoire, reprit en chœur. Et au micro, Maître Joseph Mukendi, compagnon de route d'Étienne Tshisekedi, qui lance un appel aux militants à ne pas baisser les bras, quand bien même ils se sentent orphelins.
Des personnes qui pensent qu'avec la mort de Tshisekedi, le combat s'est arrêté, se trompent. Parce que l'esprit de Tshisekedi, notamment ses valeurs qui nous a incarnées, nous les avons tellement intériorisés qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'un seul Tshisekedi, il y a des millions de Tshisekedi qui peuvent continuer ce combat dans la dignité.
Entretenir les mémoires pour rehausser la mobilisation malgré un contexte difficile. À la tribune, les orateurs se succèdent, partagent leurs souvenirs, insistent sur la droiture d'Étienne Tshisekedi, dont le portrait géant recouvre tous les murs. Augustin Kabouya, porte-parole du parti.
Les gens doivent comprendre ce qu'a été la philosophie, la vision, les combats politiques d'Étienne Tshisekedi. Je peux vous dire aussi que ça fait partie de notre stratégie de sensibilisation de notre base, puisque nous utilisons le nom de Tshisekedi, c'est stratégique et politique aussi. Même les gens qui nous ont quittés, ils continuent à utiliser le nom de Tshisekedi pour séduire les esprits faibles. Et nous, les héritiers politiques de Tshisekedi, nous ne pouvons pas faire des concessions avec des opportunistes pareils.
Pas question non plus, explique Jean-Marc Kabound, secrétaire général du parti, de renoncer à l'accord de la Saint-Sylvestre, dévoyé selon lui, et que beaucoup ici considèrent encore comme le testament politique d'Étienne Tshisekedi.
L'actualité en RDC et ailleurs est à suivre dans nos journaux et sur le site de RFI, www.rfi.fr. À noter aussi dans l'actualité africaine une grève des fonctionnaires au Tchad, un accord en revanche entre les enseignants et le gouvernement au Burkina Faso, et à noter aussi un rationnement d'eau annoncé au Cap à cause d'une grave sécheresse. Si rien ne change, le 12 avril prochain, la ville sera la première métropole du monde à court d'eau.
Une semaine d'actualité.
Vous écoutez RFI, vous avez raison, nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Bavrez. Je sais que vous écoutez RFI, Nicolas Bavrez. Que pensez-vous de ces trois reportages concernant l'Afrique que j'ai voulu rassembler autour d'une question, d'un mot qui s'appelle démocratie?
Le mot est évidemment très bien choisi. Donc, d'abord, l'Afrique est pour nous tous un enjeu déterminant. C'est sans doute l'enjeu le plus grand du 21e siècle parce que le continent va gagner plus de 2 milliards d'habitants d'ici à 2100. Et suivant que le décollage économique, que le progrès social et que la stabilité politique s'installent ou qu'à l'inverse, le chaos domine, on aura le visage du XXe siècle peut être extrêmement différent. La démocratie en Afrique, comme dans beaucoup de continents, avait progressé, notamment dans les années 1990. Et c'est vrai que les reportages que nous venons d'entendre sont très représentatifs et illustrent la situation aujourd'hui difficile de la démocratie dans beaucoup de régions du monde, y compris en Afrique. Alors l'Afrique a 54 États, c'est évidemment un continent immense, c'est très différent, mais on voit très bien que aujourd'hui l'autocratie, le refus du suffrage universel, la dégradation de l'état de droit, la corruption, malheureusement, mine la stabilité de ce continent. Et la dernière remarque, c'est pour dire que l'Europe ne peut en aucun cas se désintéresser de ce qui se passe en Afrique. L'Afrique, c'est d'une certaine manière le grand continent émergent aux portes de l'Europe, et ça peut être une source de déstabilisation majeure si l'Afrique échoue dans le décollage qui a commencé depuis le 21e siècle, ce qui est une très bonne nouvelle, mais on voit aujourd'hui que il hésite et qu'il se trouve à la merci de la déstabilisation politique, des problèmes d'inégalité, des problèmes climatiques et surtout des problèmes de violence, parce que dans la plupart de ces régions, et une des premières explications des migrations aujourd'hui, ce sont quand même les situations de guerre civile et d'affrontements violents.
Mais la République démocratique du Congo est un cas d'école dans ce domaine, parce que non seulement il y a le problème de démocratie, d'élection qui tarde à venir, mais il y a aussi le poids, l'absence de pouvoir de l'État sur cet immense pays qui a les richesses que l'on sait. Là se pose véritablement un problème. Il y a aussi le poids de l'Europe, la maison Schengen de Kinshasa qui délivrait jusqu'ici les passeports européens a été fermée, on ne sait pas encore pendant combien de temps. Là, il y a vraiment un problème d'autorité politique de l'Europe, et il y a aussi une question de d'organisation de la vie démocratique en République démocratique du Congo. Vous voyez, le parti d'opposition n'a toujours pas trouvé de leader après la mort d'Étienne Tshisekedi.
Ça rejoint ce qu'on disait sur le Moyen-Orient, c'est-à-dire que et c'est ce qui menace d'une certaine manière le Sahel, c'est-à-dire que si on laisse s'installer des situations d'immenses, puisque ce continent est immense, d'immenses zones grises sur lesquelles on a des affrontements à la fois ethniques et religieux, sur lesquelles il n'y a plus d'autorité d'un État légitime, sur lesquelles évidemment il n'y a plus d'économie et les gens sont désespérés, et avec en plus des jeux de puissance régionale, on va rentrer dans ce schéma de la guerre sans fin et de l'ascension aux extrêmes de la violence, et ça, il faut absolument l'éviter.
Alors Emmanuel Macron, on va terminer avec lui, Nicolas Bavrez, cette émission était au Sénégal hier vendredi pour un sommet sur l'éducation. Vous dites dans votre livre, Emmanuel Macron porte une responsabilité historique, son mandat constitue la dernière chance de moderniser la France de manière pacifique avant qu'elle ne bascule dans la violence et la guerre civile.
C'est vrai que notre pays était devenu un peu l'homme malade de l'Europe et du monde développé. Alors la situation s'est inversée dans l'image de manière spectaculaire, puisqu'on l'a vu aujourd'hui, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne un peu paralysée, l'Espagne avec le sécessionnisme catalan, l'Italie avec le mouvement Cinque Stelle. Donc les autres ont des difficultés et de notre côté, la France est plutôt stable politiquement avec Emmanuel Macron et par ailleurs, elle a une amélioration de sa situation économique. Mais ce à quoi il faut faire attention, c'est à l'écart entre cette image qui s'est améliorée et c'est très heureux, et puis la réalité.
Ouais, parce que vous dites, Jupiter est emporté par son hybris, par sa volonté de puissance.
Voilà, donc prenons Davos, parler 5 fois plus longtemps que le président des États-Unis, c'est quand même osé. Alors, il se trouve que Emmanuel Macron avait par ailleurs des choses intéressantes à dire, mais je crois que et il faut faire attention finalement à 2 choses, éviter que l'image extérieure et l'accueil très favorable qui est fait à Emmanuel Macron l'amène à être de plus en plus à l'extérieur et qu'il ne soit pas assez à l'intérieur. Et puis l'autre problème, c'est le décalage entre le discours et les actes. Or, il faut traiter les problèmes de la France et on voit très bien que en matière de chômage structurel, en matière de compétitivité qui continue à se dégrader, en matière, on l'a dit, de réforme de l'État et donc non seulement de diminution des dépenses, mais de réorientation d'une partie des dépenses sur l'investissement et sur l'État régalien, tout reste à faire. Donc les conditions du redressement sont sans doute réunies, mais le redressement, lui, n'est pas encore fait. Et c'est bien là le vrai mandat qui a été donné à Emmanuel Macron.
Merci Nicolas Bavrez. Je conseille votre livre qui s'intitule « Violence et passion, défendre la liberté à l'âge de l'histoire universelle ». Ce livre est publié aux éditions de l'Observatoire.
Merci beaucoup.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Orvansky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Et nous parlerons d'Homère, figurez-vous, avec le grand helléniste Pierre-Judé de la Combe. Vous croyez qu'Homère a existé? Eh bien écoutez, Idées demain, c'est pas si simple. 15h10, temps universel si vous êtes en Afrique. 17h10 si vous êtes à Paris et dans le reste du monde. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.